Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, la théorie et la pratique dans tous les sons et dans tous les sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée à quatre mains par Jérôme Chélus et Benjamin Riquet, assisté de June Loper, avec Clément Berman à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, changer le monde, rien que ça. Avec ATTAC, l'association altermondialiste qui fête ses 20 ans et sa mission de désarmer les marchés, et Lussas en Ardèche, le village documentaire qui a mis en œuvre la devise « Agir local, penser global » et qui vient de fêter les 30 ans des états généraux du film documentaire.
Oui, ça, la crise financière, elle est certaine. Après, on ne sait pas si c'est cette année, l'année prochaine ou la suivante, mais autant la crise de 2008, peu d'économistes l'avaient vu venir, autant celle-là, on ne peut pas dire qu'elle va prendre grand monde par surprise.
Nicole, c'est un lieu de résistance ici, Lussas?
C'est un lieu de rêve, d'utopie, et d'utopie qu'on essaye de mener jusqu'à leur terme.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Comme un bruit qui court, que la crise financière n'a pas eu tout à fait les effets escomptés. Alors qu'il était question d'instaurer une taxe sur les transactions financières, de mettre un holà à la toute-puissance des banques et de la finance, de limiter les revenus indécents des traders pour éviter qu'une nouvelle crise se reproduise, force est de constater qu'aujourd'hui, tous les économistes s'accordent à dire qu'une nouvelle crise économique est à venir. La seule question est, d'où partira-t-elle? Car en 10 ans, l'endettement mondial a bondi de 70%. Le taux de pauvreté européen a augmenté de façon continue, tant et si bien que des économistes comme Patrick Artus de la banque Natixis se demandent si dans les pays de l'OCDE, les salariés pourraient un jour se révolter contre les inégalités. Car aussi sûr qu'une nouvelle crise financière va se produire, une révolte de grande ampleur aura lieu aussi. Les ultra-riches en sont persuadés. C'est ce que nous raconte le journaliste et écrivain américain Douglas Rushkoff dans un article intitulé « De la survie des plus riches », dans lequel il explique qu'invité à donner une conférence sur l'avenir de la technologie devant des patrons de fonds d'investissement new-yorkais, il a découvert que leur préoccupation première était comment se préparer à ce qu'ils appellent l'événement, c'est-à-dire aux troubles sociaux à venir et surtout comment s'en protéger à l'aide des nouvelles technologies. Ceci n'est pas une fiction, précise l'auteur en exergue de l'article. Pire, c'est une dystopie bien concrète et bien sombre. Heureusement, en d'autres lieux, certains, eux, continuent de cultiver l'utopie. C'est ce que tu vas nous raconter, Antoine, car toi, cet été, tu es allé te balader du côté d'une utopie qui dure depuis plus de 30 ans, loin des loups de Wall Street, dans un petit village de l'Ardèche.
À Lussas, où une bande d'allumés du doc, le film documentaire de création, travaille le pays par l'image, 50 emplois en milieu rural, pensée globale, agir local.
C'est en quelque sorte la mise en pratique des théories de l'association ATTAC qui les élabore depuis 20 ans. Association qui fêtait donc ses 20 ans ces jours-ci, Give.
Oui, après les 20 ans du MEDEF, les 20 ans d'ATTAC. Je vous propose donc un petit télescopage des anniversaires, 10 ans après la crise et la chute de Lehman Brothers. Un bilan d'étape sur la marche du monde à l'occasion de la soirée de lancement du livre « L'abécédaire engagé » aux éditions Les Liens qui libèrent, où s'étaient retrouvés beaucoup de militants historiques de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Mais si en 20 ans, leurs mots d'ordre pour une régulation des marchés sont entrés dans les discours, si même Trump, Orban ou Le Pen marquent des points en conspuant l'OMC, le FMI et la Banque mondiale, les résultats de ces mobilisations tardent eux encore à venir. Raison de plus pour une petite tentative d'inventaire altermondialiste.
Jusque 17h sur France Inter, comme un bruit qui court de la théorie à la pratique, un autre monde est possible.
ATTAC, bonjour.
L'association ATTAC, qui milite pour l'instauration d'une taxe sur les mouvements de capitaux, séduit de plus en plus de Français.
Alors, tous ces gens entendent juger les banques et faire condamner les banques. Vous imaginez ça? C'est absolument impensable, enfin.
Initiative à la fois politique et économique, qui a pour objectif le contrôle des capitaux dans le monde entier.
Vous imaginez ça?
Explication.
La crise asiatique, la crise russe et aujourd'hui la deuxième rechute de la crise brésilienne jettent le doute sur les bienfaits que la libre circulation des capitaux est censée apporter à l'économie mondiale.
La fraude fiscale représente 1000 milliards par an en Europe, selon les estimations de la Commission européenne.
Alors y a-t-il un moyen de les maîtriser? L'ATTAC, l'association pour une taxe Tobin d'aide aux citoyens, a quelques idées.
Alors, on va tout de suite attaquer...
Ah oui, si, ATTAC, 20 ans après, la jamais...
1998.
Depuis une heure environ à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, les représentants des 135 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, sont officiellement réunis.
On en oublierait presque les dizaines de milliers de personnes qui battent le pavé
pour débattre,
pour protester
de la mondialisation,
contre les multinationales,
la libéralisation des marchés
et le travail précaire.
2001.
Il y a eu le temps des manifestations, comme à Seattle. Voici maintenant venu le temps de la réflexion et de la coordination pour imposer une alternative au système économique actuel.
2008.
Lehman Brothers. Eh bien, c'est cette banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui.
Jusqu'où ira la crise ?
2009.
Le temps du secret bancaire révolu.
2012.
La Société Générale s'est retrouvée au cœur du scandale.
2016.
Et c'est dans ce contexte que deux grandes banques françaises, le Crédit Agricole et BNP Paribas, font l'objet de révélations.
Au minimum, ce seraient 1250 milliards d'euros placés dans des paradis fiscaux, trois fois le budget annuel de la France.
Comme je vous l'avais promis en 2009...
Oh, bravo, bruit qui coule !
T'as pas entendu comme un bruit ?
Vivante-t-il, Charlotte Perrin, Antoine Chao.
Hashtag, comment ? Comme un bruit.
C'est vrai que 20 ans après, Attac et Medef ne fêtent pas le même anniversaire. Le gâteau n'a pas la même saveur. Autant pour la rentrée des intermondialistes, un soir de septembre à la Bourse du Travail, on avait du mal à cacher un léger dépit, autant à la rentrée du Medef sur le campus d'HEC, patrons et influenceurs essayaient à peine de cacher leur joie. Il faut dire qu'Ernest Santouelle-Sellière avait vendu la mèche. L'ancien patron des patrons peut depuis sa retraite savourer le sentiment du travail accompli.
Monsieur Sellière, bonjour.
Oui, j'ai eu un message comme quoi vous étiez là et donc pas de raison de ne pas m'entretenir avec un journaliste.
Ernest Antoine Sellière, votre agenda, comme on dit maintenant, votre agenda a été écouté.
Il y a en effet une vingtaine d'années, on a dessiné un programme économique et social, on a appelé ça d'ailleurs la refondation sociale à l'époque, qui était ce que l'on entend aujourd'hui. Il a fallu 20 ans, je dirais, pour faire émerger quelques idées simples. Et je vois enfin actuellement, en effet, se mettre en place quelque chose qui indique qu'on peut peut-être, en effet, commencer à avancer dans la bonne direction. Je crois qu'actuellement, on est en train d'essayer de voir ce qui marche.
C'est cela, l'esprit start-up. Il est indispensable de développer ce venture capital. Nous devons devenir la nation des start-up.
I want France to be a start-up nation. Merci pour votre attention.
Vous avez ton attaque, j'espère, on sait ça. Allez-y.
Par là-bas. Alors, je vous retrouve au Réunis Trouvé. La semaine dernière, on était à la fête des 20 ans du MEDEF. Ernest Antoine Sellière se félicitait du chemin accompli dans le sens d'une plus grande ouverture des marchés. Et là, on se retrouve ce soir pour les 20 ans d'attaque.
Ouais, alors c'est vrai qu'on peut pas tout à fait se féliciter de la bonne direction des politiques de manière générale en France et à l'international, c'est vrai. Entre, je dirais, d'un côté le libéralisme économique et autoritaire des Macron, Trudeau au Canada, Merkel en Allemagne, etc. Et puis un capitalisme xénophobe qui monte aussi évidemment avec Trump, mais avec de plus en plus de gouvernements européens aussi qui proposent le repli sur soi et le rejet de l'étranger. Et je pense que dans ce contexte-là, c'est extrêmement important que vive, que se développe l'altermondialisme. On n'a peut-être jamais été aussi nécessaire.
D'autant que si le rouleau compresseur de la libéralisation a bien fonctionné au cours des 20 dernières années, les analyses qui ont été faites dès 1998 se sont vérifiées. Il y a eu depuis, par exemple, la crise de 2008, qui était presque une illustration des risques qui étaient annoncés à la financiarisation de l'économie.
Et ouais, en fait, les 20 ans d'attaque. Bah d'ailleurs, je dirais quand même que dans nos victoires, on a quand même une victoire idéologique. Parce que quand on s'est créé en 98 et qu'on prenait la taxe sur les transactions financières, on était les dangereux gauchistes révolutionnaires.
De quoi vous parlez même, on disait.
Bah exactement. Fin des années 90, c'était vraiment l'idéologie ultra dominante. Comment ça faire payer la finance?
On le citait tout à l'heure, c'était l'époque de la mondialisation heureuse, livre d'Alain Minc.
Ben oui, alors cette idéologie, elle est restée, peut-être pas de manière aussi décomplexée, mais en même temps, je pense qu'on a été vraiment des artisans de la critique du néolibéralisme économique et puis peut-être de la possibilité un jour d'alternative au pluriel à ce capitalisme financier, le système dans lequel on est, quoi.
Une citation en préambule, celle du patron de Google, Eric Schmidt, qui disait il y a quelques mois, qui se disait très fier d'échapper au fisc, c'est le capitalisme, disait-il.
Bon, bonsoir à tous. Du coup, on va commencer. Je vais demander à Aurélie
Faut s'en souvenir, il y a 20 ans, c'était l'époque de Tina, il n'y a pas d'alternative, de la pensée unique, les marchés avaient gagné sur les ruines des idéologies du XXe siècle, et plus personne ne parlait de capitalisme, gros mot relégué aux archéo-communistes. Mais vers ces mobilisations nouvelles, Seattle, Gênes, Porto Alegre, face au Forum économique mondial de Davos, rendez-vous des dirigeants et patrons, les ONG, syndicats et associations lançaient leur contre-sommet, un forum social mondial à Porto Alegre. Pierre Tartakovsky, président d'honneur de la LDLH, retrace la folle impulsion des débuts.
C'est jouable. C'est
jouable. Pierre Tartakovsky, vous étiez le premier secrétaire d'Attaque. Redites-moi comment le mouvement a commencé, voilà 20 ans maintenant.
Alors, anecdotiquement, il commence, mais ça n'est pas qu'une anecdote, par un appel du monde diplomatique qui lance un appel à ses lecteurs pour créer un mouvement de soutien à la taxe Tobin, conçu comme un élément de lutte contre la spéculation financière.
C'est un édito d'Ignacio Ramonet.
Ignacio Ramonet, qui était directeur du journal à l'époque. Parallèlement, le journal prend contact avec d'autres titres de presse, témoignages chrétiens, politistes notamment, et avec d'autres acteurs qui sont depuis quelques années un peu en rupture avec ce qu'on appelait à l'époque la pensée unique. Il y avait notamment des mouvements sociaux autour des sans, les sans-papiers, les sans-emploi.
Les sans-logements aussi du DAL.
Il y avait aussi le DAL et tous les mouvements qui trahissaient la dérive vers l'exclusion sociale. Et puis, il y a une quantité de gens dans les organisations syndicales, au sein des partis politiques. Chacun a bien compris que le monde est en train de se restructurer autour de quelques pôles très très dominants et qu'il s'agit de leur opposer une autre logique. C'est-à-dire, on ne laisse pas le monde des affaires s'occuper des affaires du monde. On leur oppose des lois, des règles, des règlements. Et puis, quelque chose qu'on essaye de penser comme l'intérêt général au niveau planétaire. D'où l'intérêt de la taxe Tobin. Parce que la taxe Tobin, finalement, c'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu, mais à échelle planétaire.
Parce que, rappelons-le, c'était une taxe infinitésimale sur les transactions financières.
Absolument. Mais
quelque chose de parfaitement indolore pour les spéculateurs, mais qui aurait pu, ou qui pourrait dégager des milliards.
D'une part, elle pouvait dégager des milliards. D'autre part, au plan symbolique, elle signifiait que l'argent roi n'était plus roi et qu'il fallait que de roi, il redevienne serviteur. Ce qui est sa juste place, c'est qu'il inscrive sa rentabilité dans des projets qui soient des projets de développement. À l'époque, on disait pas humain durable, mais nous étions tous taraudés par le poids de la dette, de la faim qui perdurait, la question de l'inégalité des échanges était posée. Et la taxe Tobin a joué un rôle d'objet frontière. C'est-à-dire qu'elle a cristallisé, coagulé les différentes consciences des gens qui voulaient que la planète tourne un peu mieux autour de son axe.
C'est la désormais fameuse taxe Tobin sur les transactions financières.
La taxe Tobin, on en parle depuis des années, mais de quoi s'agit-il exactement ?
De quoi parle-t-on concrètement ?
Une taxe défendue dès les années 90 par les altermondialistes.
Ils proposent de taxer les échanges monétaires internationaux.
C'est un prélèvement infime qui serait appliqué sur toutes les transactions financières.
La taxation des transactions financières.
L'argent collecté serait, disent-il, destiné aux pays en développement.
L'objectif, freiner la spéculation financière.
Les transactions financières représentent 4 600 milliards d'euros chaque jour dans le monde. 4 600 milliards d'euros, c'est un énorme pactole.
L'affaire de la taxe Tobin est une absurdité.
Nicolas Sarkozy, 1999.
Si nous le faisons en France, on va encore le payer de dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le monde a changé.
L'association Attaque, qui milite pour l'instauration d'une taxe sur les mouvements de capitaux, séduit de plus en plus de Français.
Nicolas Sarkozy, 2012.
Nous avons également pris enfin la décision de créer une taxe sur les transactions financières.
La taxation des transactions financières. Nous pouvons le décider ici. Pourquoi attendre ?
On se met 2 minutes.
C'est pas si on a le droit de rester ici.
Bon anniversaire d'abord, Suzanne.
Merci, Jean. Mais c'est, je n'y suis pour rien. J'étais qu'un membre fondateur et j'ai tellement aimé cette organisation qu'on m'y trouve encore.
Qu'est-ce qui a changé depuis 20 ans ?
Qu'est-ce qui a changé ? Je crois que nous avons beaucoup aidé à coaliser, je crois, ce sentiment contre le néolibéralisme qui est à la racine de tant de maux dans notre société. C'est déjà les banques qui ont le droit de faire n'importe quoi et les gouvernements successifs n'ont rien fait pour les contenir depuis 10 ans. Alors il faut encore souligner cet aspect-là parce que c'est très très dangereux et on peut attendre autre chose, un autre accident d'un jour à l'autre. Mais les comportements sont les mêmes, ça viendra peut-être d'ailleurs, ça viendra peut-être d'un pays émergent. Mais la finance est absolument chancelante, sauf que ceux qui la dirigent pensent que tout va bien.
Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour dans 15 ans ?
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Moi j'espère qu'on ira plus loin, d'abord sur le chapitre de la finance, sur le sujet du climat, parce que si nous ne pouvons pas vaincre sur le climat, tout le reste de notre travail est vain. Dans le siècle des siècles, nous n'avons pas encore atteint le point de non-retour. Et c'est pour cela qu'il faut continuer à faire tout ce que l'on peut, parce qu'il y a un point de non-retour, mais c'est possible de gagner. Ça commence demain matin et ça finit peut-être pas ce soir, parce que ceux qui sont à cette soirée vont probablement aller au café et puis comploter pour l'avenir, justement, je l'espère.
Économie. Merci beaucoup, Suzanne Dior.
Je vous en prie.
He gives us tea, but it's often quoted, all in the cause of economy. The beer is free, but the beer is watered, all in the cause of economy.
10 ans de la chute de Lehman Brothers.
C'est cette banque d'affaires qui est ruinée aujourd'hui. Elle annonce sa mise en faillite. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique.
Dans la nuit du 14 au 15 septembre 2008, la prestigieuse banque américaine déposait le bilan.
La quatrième banque d'affaires américaine est en faillite.
C'est la plus grosse faillite de l'histoire américaine.
La fameuse crise des subprimes n'est pas du tout terminée.
Depuis hier, le risque de contagion est réel.
Le Dow Jones plonge de 500 points. Un vent de panique souffle sur les marchés financiers du monde entier.
Ça n'a pas de précédent.
Le monde ne se doute pas à l'époque que cette chute va déclencher une spirale infernale et provoquer la plus grave dépression depuis les années 30.
Comment en est-on arrivé là ?
Et oui, on se souvient de ces nombreux événements.
Mais comment en est-on arrivé là ?
Alors je vous retrouve, Aurélie Trouvé. 15 septembre, c'est l'anniversaire de la crise financière. Ouais. Dont on n'est pas vraiment encore sorti.
Voilà, la chute de Lehman Brothers, parce que la crise économique avait commencé déjà bien avant. On était d'ailleurs un certain nombre d'organisations, d'économistes à tirer la sonnette d'alarme. Et les semaines et les mois d'avant où les plus libéraux disaient que c'était génial et qu'on allait continuer à faire fructifier la finance et patatras, effectivement, chute de Lehman Brothers là, qui a emporté l'économie. Alors je vais préciser justement, parce que ce qu'on veut montrer, c'est que depuis 10 ans, les profits des grandes banques, les profits financiers n'ont jamais été aussi importants. Que ceux qui ont payé la note, ce sont avant tout les citoyens, à travers notamment les plans d'austérité. Tous les gens aussi qui ont été privés de logement, tout un tas de conséquences sociales désastreuses, mais aussi l'écologie. Parce que le manque d'argent, la crise a été un prétexte pour ne pas enclencher de transition écologique véritable qui demande des moyens financiers, et puis parce qu'il ne fallait surtout pas brider la reprise de l'économie et de la finance. Donc les véritables responsables n'ont pas payé la note et qu'ils se portent encore mieux qu'avant, et surtout qu'il y a tous les ingrédients pour une nouvelle crise financière. Voilà.
Et le monde diplomatique n'avait jamais eu autant de courriers qu'après ce.
Les militants d'attaque ont peut-être bien eu raison trop tôt. L'autorégulation du marché, c'était effectivement du flan. Le ruissellement des richesses aussi. Et pire encore, après la crise, les riches s'enrichissent effectivement quand les autres s'appauvrissent. Et tout le monde s'en rend compte aujourd'hui. Alors ils se retrouvent, pour leurs 20 ans, c'est pas pour la gloriole et des souvenirs d'anciens combattants, mais c'est aussi pour éviter le désastre. Gus Macia n'est pas monté sur la tribune, mais il est là, dans la salle. Ancien président du CRID, croisé à tous les rassemblements altermondialistes, il est toujours là, appelant à la convergence des luttes. Gus Macia, vous êtes venu, vous faites partie des militants historiques.
Dieu quoi.
C'est pas ce que je voulais dire.
Oui, mais c'est comme ça quand même.
qui fêtait la rentrée d'Attaque cette année.
Oui.
Beaucoup de chemin a été parcouru depuis ces 20 ans dans la prise de conscience et dans le discours général sur la mondialisation et sur l'économie.
Oui, je pense qu'il y a quand même eu une prise de conscience qui s'est passée. Et ce que nous disions, c'est que, attention, parce que les forces qui sont à l'œuvre, si elles progressent, vont nous amener dans une situation catastrophique. Malheureusement, nous avions raison. C'est-à-dire que ces forces ont progressé et on voit bien aujourd'hui que nous sommes dans une période que j'appellerais une période de contre-révolution. Le néolibéralisme est devenu beaucoup plus autoritaire. Il a abandonné un peu ses oripeaux démocratiques. 2008, c'est donc la prise de conscience de cette crise. Et bon, 2011, c'est la réponse des peuples. Les printemps arabes, les indignés, les Occupy Wall Street, les parapluies de Hong Kong, les carrés rouges, les étudiants chinois, enfin bon, il y a... partout dans le monde, il y a des vrais mouvements insurrectionnels et qui portent des idées nouvelles. Notamment Occupy Wall Street, c'est le meilleur résumé que l'on puisse faire de ce que voulait dire l'altermondialisme.
Occupy Wall Street. Occupy Wall Street. Occupy Wall Street.
Wall Street.
Wall Street.
Occupy Wall Street.
Tell me what democracy looks like! What democracy looks like! Tell me what democracy looks like!
Zuccotti Park, un square à deux pas de Wall Street. C'est ici que des dizaines d'Américains campent depuis deux semaines et malgré les 700 arrestations de la veille, ils gardent le sourire. Et ce n'est qu'un début.
This is the start.
Et donc, ça démontre qu'il y a une vraie assise populaire pour ça. Mais dès 2014, c'est la contre-révolution. La convergence entre la droite extrême et l'extrême droite. Voilà, c'est-à-dire que finalement... Il n'y a pas d'autre réponse qu'une réponse extrême. Une idéologie raciste, xénophobe, sécuritaire. L'égalité n'est pas naturelle, les inégalités sont naturelles.
Un darwinisme social, on a dit.
Voilà, exactement. Et c'est ça qui a progressé. Alors, cette contre-révolution a marqué beaucoup de points. Ce que je dirais, c'est que les révolutions sont courtes et les contre-révolutions sont très longues. Mais une contre-révolution n'annule jamais une révolution. Parce que ce qui a explosé à un moment donné, prenons l'exemple de la Commune, par exemple, ça. Peut-être parce que c'était un peu trop tôt, c'est des idées nouvelles, repart et progresse souterrainement et ressort, souvent une génération après, et construit les nouvelles luttes. C'est ce qu'on a vu avec 68, c'est ce qu'on a vu avec 1848, c'est ce qu'on a vu avec 1789. Ça. Donc nous sommes un peu dans cette contradiction dans laquelle nous voyons sur le devant de la scène monter des régimes fascisant, des choses incroyables, quoi. Orban, Trump, Modi, enfin, un peu partout dans le monde. Mais ce sont eux qui résistent, c'est pas nous qui résistons. L'extrême violence, c'est la résistance de ceux qui avaient le pouvoir et la richesse et qui sont confrontés à la fin de leur monde. Voilà. Et ben, maintenant, évidemment, ça veut pas dire que le nouveau sera parfait. Et qu'on va gagner, au contraire, on n'en sait rien, mais ça veut dire que le front est ouvert.
Un président qui taxe sanctionne ses partenaires commerciaux.
Ma priorité, l'Amérique d'abord, que ce soit pour la production d'acier ou de voitures.
Avec sa politique musclée, Donald Trump enregistre des résultats mitigés. Mais en tenant ses promesses...
Donald Trump annonce une surtaxation de l'acier venant d'étrangers et il dit même que c'est une guerre commerciale utile.
Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'ait pas fait ça, nous, avant, la France.
Parce que...
Il faudrait faire comme Trump.
Mais on aurait dû faire ça depuis bien longtemps. Nous réclamons ce protectionnisme intelligent depuis des années.
Non, notre sujet à nous, c'est comment est-ce que nous, on protège notre industrie.
So we're getting out.
Donc, je suis Cédric Durand, je suis économiste à l'Université Paris 13 et je suis un compagnon de route d'Attaque.
Et vous êtes venu pour cette rentrée d'Attaque, le discours de critique des dégâts de la mondialisation a été repris depuis 20 ans, mais maintenant, problème, il est repris par les mauvais interlocuteurs.
Oui, c'est exactement ça. Il y avait le slogan qui a marqué la naissance d'Attaque, c'est « Le monde n'est pas une marchandise ». Et pour nous, c'était un espoir. Mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'était en fait une menace, l'annonce d'un risque, d'un péril. Et on voit effectivement aujourd'hui une réaction contre cette déstructuration du tissu social, des existences, cette insécurité économique, sociale, culturelle croissante.
Autant des choses qui avaient été dénoncées par les altermondialistes.
Exactement, qui étaient identifiées, qui aujourd'hui sont captées par un discours d'extrême droite qui est réussi à donner quelques gages, en particulier on voit dans le cas de Trump, mais il y a aussi des exemples en Europe, mineurs, marginaux, sur les questions de libre-échange, sur les questions de droit international, mais qui pourtant défendent les plus riches. Et ils réussissent en même temps à défendre les plus riches et en même temps à récupérer ce langage de protection. Et là, il y a un défi majeur extrêmement inquiétant hein, pour le camp progressiste, le camp des altermondialistes.
Et alors justement, en France aussi, on avait Marine Le Pen qui parlait des ravages de l'économie financiarisée, de la mondialisation cosmopolite, à peu de choses près.
Oui, c'est exactement ça. Donc il y a eu une récupération des fois des copier-coller hein, du travail qui pouvait être fait par les uns et par les autres dans le camp progressiste par l'extrême droite. Donc voilà, il y a tout un travail qui est à faire et Attac de ce point de vue-là est un des lieux principaux à mon avis pour permettre ce travail de construction d'un programme politique qui n'a pas de visée électorale immédiate mais qui réellement est susceptible de porter une alternative dans les décennies qui viennent.
Un autre monde est possible, c'est pas fini, vous me rassurez. Pour les 20 ans, c'est qu'on n'est pas en train de faire le deuil de cette idée-là.
Non, un autre monde est certain. Le problème, c'est à quoi va-t-il ressembler? Mais clairement, on est en train de sortir d'une période. La période du pic néolibéral, de la mondialisation financière et du libre-échange, aujourd'hui, arrive à ses limites. Ça craque dans tous les sens. Hein. Mais la manière que ça prend, dont ça se referme, c'est une manière qui n'est pas jolie. Donc à nous de travailler pour effectivement avancer à des solutions solidaires face à ce craquement.
Marine Le Pen compte bien surfer sur le succès de ses alliés européens.
Comme le Hongrois Viktor Orban ou le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini.
En Hongrie, en Pologne, en Italie, en Autriche, nos idées sont déjà au pouvoir.
Le triomphe de Viktor Orban.
Son troisième mandat consécutif.
C'est une nouvelle victoire électorale de ce que les élites occidentales appellent avec mépris le populisme. L'illibéralisme théorisé par Viktor Orban.
Il est le seul à le faire.
Oui. Ah oui, il faut qu'on sorte, je crois.
Pendant qu'on quitte la salle, Thomas Coutreau, c'est quand même incroyable de se dire que vous avez parlé là pour raconter à quel point vous, l'économiste chercheur, vous vous êtes retrouvé dans mille et une situations abracadabrantes, comme occuper une société générale avec des militants enchaînés, comme transformer un Apple Store en hôpital, ou alors vous retrouver à faire le procès d'Apple contre-attaque avec Dark Vador et oui. Chewbattack réunis.
Bah, sans compter les réquisitions citoyennes de chaises...
Dans les BNP.
Dans les banques qui nous ont valu plusieurs procès, hein, là aussi. Bah oui, mais il y a un moment où si on veut, voilà, je dirais si on veut se faire entendre, il faut arrêter de faire des discours.
Mais si je te donne l'adresse,
il faut passer aux actes et...
Parce que quoi? Parce que c'est urgent?
Bah, parce qu'on tourne en rond, on tourne en rond. Notre discours, notre idéologie, on veut dire, de critique du marché, de critique de la finance... Bon, bah, elle a gagné, c'est l'idéologie dominante aujourd'hui, on va dire. La plupart des gens pensent comme nous, même Sarkozy avait fait des discours absolument virulents sur l'emprise de la finance et la honte des paradis fiscaux. Bon, simplement, voilà, il y a les discours et puis les actes ne suivent pas. Et donc là, la désobéissance civile, c'est une manière de mettre ces actes en accord avec ces discours. C'est-à-dire que la pensée et l'action se rejoignent, la manière dont on intervient en tant que citoyen dans le débat public, on met les pieds dans le plat et puis ça nous, voilà, ça oblige le débat. Alors après, c'est pas ça qui tout de suite change le rapport de force, mais je pense que ça permet aussi aux gens de sortir de la résignation, de sortir du tout est pourri, tout est foutu, et puis voilà, se mettre un petit peu au diapason des exigences de la situation.
Parce que c'est ce que vous disiez aussi, les exigences de la situation, c'est l'urgence et c'est le risque très probable qu'une nouvelle crise financière mondiale.
Oui, ça, la crise financière, elle est certaine. Après, on ne sait pas si c'est cette année, l'année prochaine ou la suivante. Mais autant la crise de 2008, peu d'économistes l'avaient vu venir, autant celle-là, on ne peut pas dire qu'elle va prendre grand monde par surprise. Parce que...
Même à la main qu'elle la sent venir.
Ah oui, mais tout. Enfin, c'est une telle évidence.
Tous les économistes mainstream se retrouvent à reprendre ce que vous clamez les uns et les autres depuis maintenant plus de 20 ans.
Oui, mais pour nous dire que ça prouve bien qu'on n'a pas fait assez de réformes structurelles et qu'il faut aller encore plus loin dans la remise en cause... de la protection sociale, des salaires. Bon, dire, j'espère que ce coup-ci, ça ne marchera pas, leur entourloupe. Mais c'est vrai qu'on est confronté à des enjeux, parce que voilà, s'il n'y a pas un sursaut citoyen extrêmement puissant, je dirais une vague indignée Occupa et multipliée par 10, ben avec des changements politiques réels, je pense que voilà, l'affaire va tourner au vinaigre. Parce que les enjeux qu'on a devant nous sont extrêmement radicaux.
Merci beaucoup.
C'est-à-dire que on peut effectivement dénoncer la mondialisation telle qu'elle se construit, et nous l'avons fait, dire qu'un autre monde est possible, c'est généreux, c'est nécessaire parce que c'est semer des graines d'espoir, mais après, nous sommes en train de le voir grandir sous nos yeux, un autre monstre est possible.
Un autre monstre est possible. Les élections européennes au mois de mai nous le diront. Et plus prochainement au Brésil, les élections aussi où l'extrême droite fait une percée inquiétante.
Et Pierre Tartakovsky que vous entendiez, et vous et tous les contributeurs de cette émission, vous les retrouvez dans l'abécédaire engagé d'altermondialisme à Zapatiste, publié par les éditions Les Liens qui Libèrent, avec une soixantaine de contributeurs, de Naomi Klein à Monique Pinson-Pacharlot.
Et de la théorie à la pratique, direction maintenant l'USAS en Ardèche, où l'on met en œuvre concrètement depuis plus de 30 ans le slogan d'attaque « Penser global, agir local ».
Et cet été, au mois d'août, c'était la 30e édition des États généraux du film documentaire. Une bonne occasion d'aller se balader à l'USAS et voir le travail accompli par cette bande d'allumés du doc, du film documentaire de création. Et en plus, on s'y intéresse au son et à la création radiophonique, puisque la nuit, la radio de la SCAM s'y déroulait et que le génial preneur de son, Daniel D. a proposé une conférence sur la puissance du silence. Regardez, écoutez et dansez aussi pour changer le monde. C'est l'heure des travaux pratiques à l'USAS. Comment travailler le pays par l'image et créer 50 emplois en milieu rural? Bravo! Défendre par la même occasion la création sonore, encore bravo, et finir en grand bal. Allez, en route, on prend le car de Montélimar.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
L'USAS en Ardèche, à une petite heure de Montélimar. 1000 habitants, une école, une mairie, une boulangerie, une épicerie, deux cafés-restaurants, un salon de coiffure, des vendeurs de fruits, une coopérative viticole, une église. Mais aussi un autre village qui a pour nom Documentaire, le village Documentaire. Sur les panneaux, interdit de stationner. Meilleur film du festival à la coopérative fruitière. Gratuite séance de projection des films du master de l'école documentaire. C'était mercredi 22 et jeudi 23 août à la coopérative fruitière, derrière le stand de fruits. 6 courts-métrages par soir, suivis d'un buffet gratuit. Un plombier, ardéchois aussi, sur la place du village. Et une effervescence parce que ce sont les états généraux du film documentaire ces jours-ci à l'USAS, du 19 au 25 août 2018. Et c'est la 30e édition de ce festival du documentaire, en fait, du film documentaire.
Ah, le cinéma.
Là, c'est Game Girls.
D'accord.
Et là, c'est complet, là, ici, la salle de cinéma.
Ouais.
D'accord.
It's gonna take my faith. Period. Nigga, period. Nigga, period. Nigga, nobody. Period.
Les gens courent acheter des passes, en fait, c'est complet. Il y a du monde partout.
Au Moulinage, il reste des places, mais bon, le temps d'y aller, il y a déjà quand même pas mal de queues. Mais il est peut-être encore temps.
Je suis vraiment désolée.
Salle de cinéma. Rediffusion aujourd'hui, Cassandro de Exotico, réalisé par Marie Lozier. J'ai pu le voir hier à l'espace SCAM, c'est excellent quoi. Sur un catcheur mexicain de lucha libre, gay.
Hola! Have you been?
I'm okay with you.
Where is Cassandro? Ok, c'est parti.
Beaucoup me voient comme un leader ou une déesse des exoticos. On m'appelle même le Liberace de la lucha libre. Mais j'ai traversé beaucoup de choses. On m'a battu, blessé, on m'a fermé beaucoup de portes parce que j'étais étiqueté gay, exotico. Le catch est une religion au Mexique. Chaque dimanche après la messe, on allait voir de la lucha libre. J'adorais ça. Et bien sûr, étant gay, j'adorais voir les hommes. J'étais tellement intrigué par leur lycra, leur masque, leur corps.
As we say in French, merde, it means break your leg.
No, we don't say break your leg.
No?
C'est good luck.
On dit jamais break your leg en lucha libre. On dit bonne chance.
Alors, là, il faut que je réfléchisse.
Bonjour.
Non, mais la question, c'est dans quel ordre il faut commencer par l'Elvie et repasser par Lussas, alors que d'habitude, on file direct sur Valls quand on est en bas. Donc, c'est un... Alors, 12h10.
Si, c'est l'accueil...
Alors, nous, on est plutôt l'accueil navette.
L'accueil navette.
Navette invitée. Moi, je m'appelle Nicole Zézig. Et en dehors d'être la responsable de l'accueil des navettes invitées, je suis aussi la présidente de l'association Ardèche Images. Donc non seulement les états généraux, mais l'école documentaire, mais la maison du doc, mais voilà, toutes les activités qui découlent de l'association.
Alors une grande aventure, hein, même plus de 30 ans, hein, c'est ça, de travailler le pays par l'image, quoi, par le cinéma.
Ah bah oui, beaucoup plus de 30 ans, puisqu'en fait on a créé l'association je sais même plus si c'est en 79 ou en 80. Enfin en tout cas l'année prochaine on fête les 40 ans de l'association. Parce qu'avant les états généraux, il y a déjà eu une vie cinématographique à Lussas. On a organisé pendant 10 ans un festival qui s'appelait Cinéma des pays et régions. Il y a eu aussi quelques éditions d'un festival Film et cheval. On a fait des marathons du scénario. Oui, il y a eu 10 ans d'aventure cinématographique à Lussas et de festival avant même la création des états généraux.
Et pourquoi à Lussas ?
Moi, je suis pas d'ici, mais on habitait ici. Alors, on a fait ça ici, on a fait ça chez nous, en fait. Et surtout parce que le grand initiateur de tout ça, le patron, l'initiateur, c'est Jean-Marie Barbe, qui était le fils de l'épicière, en fait, de Lussas. Et on était un certain nombre à habiter là, et à un moment donné, on s'est dit, on vit ici, et si on fait des choses, on va les faire ici. On n'a aucune raison d'aller les faire ailleurs.
Mémoire interdite et promenade géographique sont cette année les thèmes principaux des états généraux du film documentaire de Lussas. C'est en Ardèche.
Le petit village de Lussas grouille d'une foule inhabituelle. Pour une semaine, en effet, ce bourg de 700 âmes est devenu la capitale du film documentaire. 3200 amateurs et professionnels s'y précipitent d'un peu partout.
Alors au départ, c'est Ardèche Images, hein, c'est ça ?
Oui, on va dire que la maison mère, avec tous les guillemets de circonstances, la structure voilà, un peu à l'origine de tout ça, c'est Ardèche Images. Mais il y a tout un tas d'autres structures qui se sont créées au fil des années dans des secteurs d'activité complémentaires. C'est-à-dire dans la mesure où on vivait ici, où on faisait des choses ici, on a inventé au fur et à mesure nos présents et nos futurs ici. Donc quand on décide de mettre en place des formations, en commençant par des résidences d'écriture, documentaires, quand on décide, à l'époque c'était un DESS et pas un master, d'aller sur le champ de la formation universitaire, on se pose pas la question de savoir où est-ce qu'on va faire ça. On est ici, on continue à faire des choses ici. Et puis c'est vrai que l'ancrage territorial est super important. Oui, Lussas, sur le canton, Lussas est un des villages hyper dynamiques. Voilà, il reste des commerces, il y a une école, beaucoup d'écoles et de services publics ont fermé dans les villages alentours, mais Lussas est assez, de ce point de vue-là, assez emblématique. Là, avec le développement des différentes structures, des gens qui travaillent dans le champ du cinéma documentaire, que ce soit les gens de l'association Ardèche Images, les gens qui travaillent à l'école, les gens qui travaillent à la maison du doc, donc au centre de ressources, qui font de la diffusion tout au long de l'année. Il y a aussi tout un grand nombre de structures, de gens qui travaillent autour du cinéma documentaire ici à Lussas. Il y a des sociétés de production, il y a une société de distribution, il y a d'autres associations qui œuvrent dans le champ du cinéma documentaire. Au total, il y a une quarantaine de personnes qui travaillent à Lussas directement dans le champ du documentaire. Et toutes ces associations et ces structures sont réunies dans une association qui s'appelle le Village Documentaire. Et d'où la construction du nouveau bâtiment, l'Imaginaire, à l'autre bout du village, qu'on investit tous à la rentrée. Là. Voilà, construction d'un bâtiment de 1500 m² qui va tous nous accueillir, à la fois les gens qui travaillent, les bureaux et tout ça, mais aussi un gros espace de post-production qui servira à la fois pour les étudiants de l'école, mais aussi pour Tank, donc la plateforme de diffusion de documentaires qui, elle, s'engage dans des coproductions.
La campagne, c'est un lieu où tout peut se faire. N'importe qui peut arriver du Mexique, puisqu'il y en a trois qui sont arrivés du Mexique tout à l'heure, de Pologne, puisqu'il y en a deux qui sont arrivés de Pologne, d'Angleterre, et du village à côté.
Nicole, c'est un lieu de résistance ici, Lussas ?
Bah, d'une certaine façon, oui. Mais c'est un lieu d'invention, surtout. C'est un lieu de rêve, d'utopie, et d'utopie qu'on essaye de mener jusqu'à leur terme. Bien sûr qu'on a toujours à cœur de consolider l'existant, voilà, on se bat au quotidien, mais on invente aussi des futurs. On aurait pu se contenter de faire tourner une manifestation qui a une aura, une reconnaissance auprès du public. Je pense qu'une des choses qu'on a le mieux réussi sur les états généraux depuis déjà de nombreuses années, c'est le renouvellement de notre public. C'est-à-dire que Lussas, c'est un endroit où il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes et tout. Moi qui fréquente beaucoup de festivals documentaires dans l'année, je sais que c'est ça que nous, on a réussi très fort. C'est-à-dire que sans doute par la présence du DESS puis du master à Lussas, nos étudiants, les copains de nos étudiants, les réseaux qui se sont faits avec d'autres écoles et tout ça, ont considérablement aidé à ce qu'on rajeunisse. Bien sûr, il y a des gens qui viennent depuis 30 ans, qui nous suivent depuis 10 ans, 15 ans, les professionnels de la profession, puisque au départ, cette manifestation leur était directement destinée. Mais cette grande force ici, c'est d'avoir réussi à intéresser d'autres gens, d'autres publics, à ramener des gens beaucoup plus jeunes. Sans doute aussi le côté campagne, possibilité de planter sa tente facilement. Certes, on paye son entrée au cinéma, mais je pense que ça correspond aussi au mode de fonctionnement d'une génération qui s'intéresse au cinéma, mais qui n'a pas forcément les moyens. Par exemple, des gens qui ne seraient pas parisiens, aller au cinéma du réel, ça revient... Si on n'a pas des copains qui peuvent nous loger à Paris, c'est compliqué, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui m'amène à Lussas ?
Alors moi, j'avais un film hier soir qui était dans la section Expérience du regard.
Et le grand bal, c'était une énorme plein air.
Pour moi, le cadre, la nature, les arbres, ça a prolongé l'écran.
Je travaille dans le cinéma documentaire en production.
Moi, je me trouve là parce qu'il y a le colloque à ma sœur.
Boulegue, la musique t'a quitté rebelle. Boulegue, toi qui t'emmènes, c'est pas dans ça. Boulegue, y'a pas d'aigu qui t'es subelle. Boulegue, toi qui t'emmènes, c'est pas dans ça. Boulegue, y'a pas d'aigu qui t'es subelle. Boulegue, toi qui t'emmènes, c'est pas dans ça. Boulegue, y'a pas d'aigu qui t'es subelle. Boulegue, toi qui t'emmènes, c'est pas dans ça. Prends-moi la ma picciuda, ben per danza. Ben la meille en la vielle, yo te remembre. La plaza que de Bulega viron la barzuneta runde u polka tango e mai musetro te ne membrarà la plaza che de Bulega.
Buleg.
Alors centre-ville de Lussas. Alors il y a un petit carrefour avec la route de Mirabel, la route de Privas, la route d'Aubenas et celle de Villeneuve-de-Bergues.
On a fait exprès de construire un bâtiment sans parking. Pour, dans notre usage quotidien, l'idée c'est de rester, de laisser les voitures dans le centre du village et de se déplacer à pied pour venir. Mais cette semaine c'est un peu plus compliqué. Ouais. Donc voilà, donc là c'est moitié camping, moitié parking.
Et il y a combien de personnes viennent alors ?
À mon avis, entre 1500 et 2000 personnes par jour.
Et donc c'est le bâtiment que vous allez inaugurer là, hein, à la rentrée, quoi.
On inaugure au mois d'octobre, mais en réalité, on aurait dû déménager au mois de janvier. Et puis finalement, la réception des travaux a pris plus de temps que prévu.
Salut.
Bonjour, c'est les bureaux de Tink.
Moi, je suis Pierre Mathéus et je suis directeur de Tink.
Alors Tink, c'est une des structures là, qui est hébergée ici ou qui va l'être, c'est ça, dans ce nouveau bâtiment, quoi, l'imaginaire.
C'est ça, on est une des structures. Ensuite, dans cet étage, là, on a tous les autres acteurs. C'est-à-dire qu'à Lussas, il y a Ardèche Images, l'association mère qui est là depuis 30 ans, avec les états généraux, avec le master, beaucoup d'actions culturelles. Donc c'est un peu le moteur culturel. Et ensuite, à partir de là, il y a des acteurs qui sont greffés, filmdocumentaire.fr qui a une base de données, il y a deux associations qui font des formations à l'international et des résidences qui s'appellent Doc Monde, Lumière du Monde. Donc sur ce niveau-là, on a tous ces acteurs, dont Tink, qui a été créé par cet ensemble d'acteurs et puis rejoint par d'autres, vu qu'on est 97 associés dans une société coopérative. Et Tink, je dirais que c'est un peu le moteur économique. Voilà. Et donc on s'installe tous là. Et dans la visite, tu vas voir des espaces de post-production qui vont nous servir, qui serviront à Tink, parce qu'on diffuse, mais notre volonté politique, elle est que ces films continuent à être faits, et donc d'apporter tout ce qui est post-production, le son, l'étalonnage, le montage.
D'accord, alors Tink, ce serait le Netflix du documentaire ardéchois, quoi, c'est ça?
Oui, alors et ce qui est bien avec le Netflix du documentaire, c'est qu'on voit tout de suite de quoi on parle, c'est-à-dire c'est une plateforme où on voit des films. Ensuite, on n'est que sur du documentaire et on n'a pas la même économie. Nous, quand on va sur des films, on n'a pas envie de privatiser ces films. Bon, on n'a pas la même économie du tout. On n'a pas l'argent de Netflix. Et puis, nous, ce qu'on souhaite, c'est renouveler la création et que ces films soient vus et ne soient pas vus que sur Tink. Mais si on a créé Tink, c'est parce que les documentaires d'auteurs, on les voit plus à la télé. On les voit au cinéma, mais rapidement ils sortent. Et ensuite, on a beaucoup de mal à les voir. Donc là, on peut les trouver sur Tink. Ça, ce bureau, c'est donc filmdocumentaire.fr. C'est une base de données. Tout part souvent d'Ardache Images. Le festival recevait 1000 films par an. Et ces films, on les sélectionnait et après on les retrouvait nulle part. Donc c'était l'histoire de les garder. Donc on les a gardés, on a créé une coopérative. Mais, c'est-à-dire les gens amènent leurs films et peuvent regarder le film des autres. Comme ça, aujourd'hui, il y a 20 000 films. Donc on a créé une base de données et après il y a une association qui s'est créée qui s'appelle filmdocumentaire.fr. Ça, c'est les deux associations dont je parlais tout à l'heure. Lumière du Monde et Doc Monde. Doc Monde, l'idée c'est que sur cette zone du monde, il y a l'organisation de formation comme on a fait ici. Et on forme des réalisateurs, on forme des producteurs pour qu'il y ait des films qui se fassent et surtout renouveler la création, qu'il y ait des jeunes réalisateurs qui se fassent. Et Lumière du Monde, c'est une association, il y a une centaine de producteurs qui coordonnent les coproductions internationales. Donc systématiquement, on fait des rencontres de coproduction où on marie le réalisateur, le producteur, un diffuseur, et ça fait des films. Et c'est la plage Doc Monde de Tink. Là, il y a Andana Film, qui est la société de distribution auprès des télés internationales. Donc, il y a toute la filière qui est présente dans l'imaginaire.
Ouais. Et dans ce village de 1000 habitants.
Et dans ce village de 1000 habitants, ouais. Le maire dirait 1040, je crois. C'est important.
Et là, un bureau vide.
Parce qu'il va se passer
oui.
D'autres choses.
Ben
oui.
Hashtag comme un bruit
sur France Inter.
Les soirs, mais
c'est étudiant à Calfouré là-bas.
Oui.
Mais c'était quasiment plein. Vous, là, deux minutes.
Jonca, c'était plein. Oui.
Tu me rappelles,
heureusement qu'il y en a pas 15 par jour, on est comme ça.
Oui, moi j'en ai pas 15, mais.
Tu en as pas loin.
Non, mais ça. J'ai bien quelques-uns. Allez.
Ciao, à tout à l'heure. Au revoir.
2006. Excuse-moi.
Vas-y, je t'en prie. Bon, on est sur le bord de la 259, juste à l'entrée de l'USAS. Et puis je te trouve un peu par hasard, quoi. J'arrive de l'Imaginaire, là, que j'ai visité, avec Pierre Mathéus.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
Et il m'a dit, il faut absolument que tu vois Jean-Marie.
Bon.
Barbe, voilà.
D'accord.
Alors, en passant, je lui dis, tiens. Et là, tu discutais avec le maire, c'est
ouais,
ça voilà.
Jean-Paul Rousse, voilà. Qui est le maire du village et qui est, on est classards, on a le même âge. Donc on a parcouru 63 ans de notre vie ensemble quasiment et on est très copains. Il faut l'alliance entre un porteur de projet ou d'action et puis le maire hein, et la mairie. Quoi. C'est une condition nécessaire, sinon... Alors que là, il y a une confiance et puis il y a l'idée que le projet va servir à l'intérêt général et voilà quoi. Et on partage cette idée avec Jean-Paul depuis le début, enfin bon. Nous, on est issus, enfin moi, puis les copains des foyers des jeunes alentour, du mouvement Volem Vivre al País, qui était le mouvement occitaniste à l'époque. On n'était pas des occitanistes purs et durs, on était aussi assez bringer, anti-nucléaire et alternatif, quoi, voilà. Mais chez nous, on n'était pas des babas, c'était pas des gens qui venaient de l'extérieur, c'était au sein du monde rural que naissaient des imaginaires, on va dire. Et donc l'idée, tout de suite, ça a été à 20 ans de dire on va faire du cinéma, mais on ne va pas le faire à Paris. On va le faire ici. Et c'est totalement illusoire, mais il y a des illusions. Salut.
Qui dure.
Qui dure, et puis qui se transforme. Ouais. C'est toujours ce passage génial entre le désir, l'idée, et puis l'action, quoi. Transformer les idées, les rêves en réalité, voilà. Principe de réalité qui fait qu'aujourd'hui, ben, ici à l'USAS, on est 50 à bosser autour du documentaire de création toute l'année, qu'il y a de l'université, qu'il y a des résidences d'artistes, qu'il y a des formations à l'international, la création d'un réseau international de documentaristes, une mémoire avec une vidéothèque de plus de 18 000 titres. Ici, tout le monde, dans ces 50, partage la même utopie sur le mode, le documentaire. C'est un regard sur le monde indispensable, et indispensable dans le flux des images, de l'actu, de l'immédiateté. Là, c'est du temps, du recul, de la pensée et de la forme créative, quoi. En découvrant aussi cette forme de cinéma qui se découvrait elle-même et qui évoluait, qui a explosé dans les années 80 avec Arte, la 7, et puis qui s'est un peu effondré par rapport au grand public quand les télés ont lâché le doc de création au début des années 2000. Bien sûr, comment dirais-je, il faut des gens qui déclenchent les choses, mais moi, je suis plutôt un initiateur, un déclencheur. Mais après, il faut faire tourner les boutiques. Et là, il y a toujours du collectif. On sait d'emblée, même à 20 ans, qu'on n'a pas toutes les compétences pour créer des choses qui marquent. À 20 ans, c'était aussi de se dire, bon, ok, c'est peut-être l'échec des révolutions dans le monde, en tout cas de la révolution communiste, etc., etc. Nous, on va partir d'une géographie limitée, on va se dire, sur 30 ans ou 50 ans, on va changer le village. C'est l'utopie, mais on change le village en le renforçant dans ce qu'il est et en l'ouvrant au monde, quoi. Donc c'est à la fois être universel et être local, en gardant des principes, les principes auxquels on croit, quoi.
Magnifique. Donc en tout cas, on est ravis, ravis parce que vous êtes nombreux, nombreuses, d'un peu partout, pas seulement des aficionados du doc, mais des gens du pays, et c'est génial. Ça montre que, au demeurant, le documentaire est fait pour tout le monde, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc le documentaire d'auteur, et en parlant de documentaire d'auteur, donc ce soir on voit
Le Grand Bal,
réalisé par
Laetitia Carton.
Bravo, bravo.
Et après la séance, donc il y a un bal. Et si vous croisez des gens qui ont un petit bracelet comme ça, qui brillent dans la nuit, c'est des taxis danseurs, c'est des gens qui connaissent bien le monde du bal et qui sont ok pour vous apprendre. Bonne projection et puis bonne soirée.
Alors un petit bravo pour les 30 ans des États généraux, parce que ça n'arrive qu'une fois. La projection, le bal.
Aller au grand bal, pour moi aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que réparer le monde en nous. Pourquoi parle-t-on si peu de l'amour, celui qui nous relie tous? C'est cette intensité qui nous manque le plus aujourd'hui. La reliance à la profondeur, à ce qui est au-delà. Nous ne sommes pas là pour nous bercer les uns les autres, mais pour nous réveiller ensemble. Pour réveiller en nous la mémoire endormie. Et le miracle, c'est d'être debout dans la nuit, plein de silence dans le fracas du monde, de l'insignifiance. Plein de louanges au milieu de la haine. Nous ne sommes pas isolés les uns des autres. En vérité, nous ne sommes qu'un, dans ce noyau d'immortalité qui nous habite. Et la certitude qu'il existe un autre monde, et qu'il est déjà dans celui-là.
Le film documentaire Le Grand Bal de Laetitia Carton sortira sur les écrans le 31 octobre. En attendant, avis à tous les danseurs qui veulent changer le monde, un grand bal sauvage est prévu jeudi prochain sur les quais à Lyon. Rendez-vous aussi l'année prochaine à l'USAS pour la 31e édition des états généraux du film documentaire. Et en attendant, n'oubliez pas Tinc.
C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site franceinter.fr. On se retrouve samedi prochain à 16h.